Les chroniques du hérisson avec France Nature Environnement 1, anciennement FRAPNA. Bonjour à toutes et tous, comme chaque troisième mardi du mois, nous abordons un sujet de la nature dans l'Ain et de l'activité de France Nature Environnement 1, anciennement la FRAPNA, l'association qui réconcilie l'humain et son environnement. Dans cette émission, nous sortons des sentiers battus dans la Bartasse, comme on dit dans la langue d'oc. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'indompté, le primitif, l'inapprivoisé, bref, le sauvage. Et c'est Clémence Durochat, coprésidente de FNE 1, France Nature Environnement 1, qui nous guide sur ce chemin. Bonjour Clémence.
Bonjour.
Vous êtes bien dans les chroniques du hérisson et nous sommes en compagnie de Clémence Durochat, coprésidente de France Nature Environnement 1. Clémence, vous m'avez proposé de parler du sauvage. Est-ce que vous pouvez nous partager ce qui vous intéresse derrière cette notion ?
C'est une notion effectivement qui me semble assez intéressante, assez riche et qui, parce qu'elle elle nous invite à reconsidérer notre place dans le monde en tant qu'humain, notre rapport au vivant. C'est une question philosophique qui amène plein de réflexions.
Et alors, comment est-ce qu'on peut le définir, le sauvage ?
Alors, on peut l'associer à différentes notions, positives ou négatives. On peut avoir une notion de liberté, mais aussi un côté rebelle, qui n'obéit pas au code, qui est hors normes, hors cadres sociaux. Aussi associé, on peut avoir du coup une notion de danger, une incompréhension, une perte de pouvoir. Ce que ça renvoie, c'est la notion de nature, c'est ce qui échappe au contrôle humain. Ce qu'on ne maîtrise pas, en fait. Et par là, on l'oppose souvent à la culture, l'agriculture. Étymologiquement, le sauvage, ça renvoie à la forêt, Silva, par opposition à l'espace agricole. Et puis, on voit des images aussi, des fois, des hommes sont considérés comme des sauvages. Ceux qui ne sont pas, justement, dans les standards occidentaux. Alors on peut penser aux sauvages qu'on exposait dans les expositions coloniales à la fin du 19e siècle, par exemple. Cette notion-là, ça renvoie une approche assez anthropocentriste, où en fait l'homme est vu comme un être séparé de la nature. C'est la conception un peu moderne du lien à la nature, où il est séparé, contrairement à des communautés indigènes et cultures traditionnelles, où on n'a pas de distinction entre la nature et l'humain.
Les deux sont ensemble, les personnes, ce qu'on appelle indigènes, vivent dans la nature, ils font partie intégrante de la nature, et nous on s'en sépare.
Voilà, c'est ça. Et donc le fait de distinguer ça, ça fait qu'on a une vision extérieure, et qu'il y a cette idée que quand l'homme touche la nature, il lui fait perdre sa naturalité, il la domestique. Et donc le fait de se distancier, en fait, ça fait qu'il y a deux liens possibles. Soit on est dans une approche, on peut être dans une approche d'admiration, hein, en lien avec cette nature, cette beauté sauvage, ça peut susciter de l'envie. Ou au contraire, le fait de sentir cette absence de contrôle, de maîtrise, on peut voir ça aussi quelque part comme une agressivité. Certains éléments qui étaient inconnus dans la nature, à un moment donné, quand ils ont été identifiés, on peut penser au grand singe, ça a suscité de la peur, en fait. Et donc, ces deux rapports possibles à la nature.
Donc, un rapport positif, plutôt admiratif, et ouais. Un rapport de peur.
Voilà, eh ben, ça peut avoir des conséquences assez différentes forcément sur, comment on va être soi avec la nature, un rapport de domination, d'ordonné, de civilisé, ou un rapport de protection.
Un rapport de protection de la nature ou de se protéger ?
De protection de la nature, oui.
Donc plutôt quand il y a un rapport d'admiration, on va être dans la protection, et quand il y a un rejet, on va être dans la domination de la nature.
Ouais, schématiquement, on peut dire ça. Alors on peut s'interroger sur à quel moment en fait il y a eu cette distanciation entre l'homme et l'animal. Voilà, donc il y a plusieurs sources. On cite Descartes qui, pour lui, l'animal c'était une machine et l'homme était là pour l'exploiter. On a l'influence aussi des religions en fait qui ont orienté plutôt vers un désamour de la nature. Et puis il y a d'autres éléments, le développement de, entre guillemets, l'intelligence humaine avec la maîtrise du feu qui a donné une maîtrise des choses et qui a fait que l'homme s'est senti en fait au-dessus des autres espèces animales et vivantes parce qu'il se sentait en maîtrise de son environnement.
De son environnement qui était donc sauvage.
Voilà.
Alors on entend régulièrement parler de retour aux sources. De sauvage, est-ce qu'il existe encore aujourd'hui du sauvage ?
Eh bien, aujourd'hui, en fait, on peut répondre de différentes manières. Aujourd'hui, si on regarde ça de manière très objective, on a 99% des milieux aujourd'hui en France qui sont anthropisés, exploités, transformés par l'homme. On a 0,6% de forêts sauvages en France, donc c'est-à-dire de forêts qui sont non gérées.
Donc il n'y a presque plus aucune forêt qui est vraiment sauvage.
Voilà. Et on dit qu'on a moins de 1% du territoire qui est réellement protégé. Si on veut avoir des éléments de comparaison, il y a 10 000 ans, on avait 97% de la masse animale qui était la faune sauvage, et 3% d'humains. Aujourd'hui, on a 85% de la masse animale qui sont des animaux domestiques, 13% d'humains et 2% de faune sauvage.
Donc, ce qui veut dire que si on prenait en poids, le poids maximal, celui qui prend la majorité, c'est les animaux domestiques, les vaches, les poulets, tous les animaux.
C'est ça, animaux domestiques et animaux d'élevage. Donc on voit vraiment la diminution de la place de cette faune sauvage. Et au-delà, on peut se dire aujourd'hui qu'il n'y a plus vraiment de nature vierge à l'échelle mondiale. Le changement climatique, en fait, en lui-même, fait que tous les milieux, quelque part, sont impactés par l'homme.
Donc, ce que vous voulez dire, c'est que l'impact de l'homme, aujourd'hui, il agit sur le climat et donc il agit sur tous les milieux de la planète.
Voilà. On peut citer aussi l'autre exemple des microplastiques, par exemple, puisqu'on retrouve aujourd'hui des microplastiques à peu près à tous les endroits de la planète, même les endroits qui ne sont pas beaucoup explorés par l'homme. Mais de fait, les microplastiques retombent sous forme de pluie à peu près dans tous les espaces. Après, pour modérer un peu ça, pour répondre à cette question, est-ce que ça existe encore ? Est-ce que le sauvage existe encore ? Pour autant, le sauvage peut exister partout, en fait. Il peut exister partout où on laisse la nature revenir. Ça peut être dans des friches, ça peut être des arbres morts, des herbes sauvages. Voilà, ce que Gilles Clément, le célèbre paysagiste, appelle les tiers paysagers. Ces espaces non urbanisés, non cultivés, délaissés, qui peuvent être refuge d'une grande diversité menacée par ailleurs.
Merci beaucoup Clémence Durochat. On reprend la suite de cette émission le mois prochain, donc à la prochaine fois.
Merci, au revoir.
La chronique du hérisson se termine. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur fne-1.org. Merci pour votre attention. Les chroniques du hérisson avec France Nature Environnement 1, anciennement Frappenat.